lisons Tite, chapitre 1, versets 4 et 5, puis le chapitre 2. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors au chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, en fait que la parole de Dieu ne soit pas comment blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montra toi-même à tous égards quoi? Un modèle de bonnes œuvres et donna un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, en fait que l'adversaire soit comment? Soit confit, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire à toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? A été manifeste. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé. Zélé. Pourquoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le sérieux avec lequel chaque chrétien prend le salut dépend de la valeur par laquelle il les considère et de la manière par laquelle il a acquis, si du moins il a déjà acquis. Il faut ajouter également les niveaux du regret qui peut le frapper s'il le perdait. Pour les disciples du Christ, il n'y a pas de choses précieuses qui soient au centre de sa préoccupation que ce salut. Le salut prend la première place. On peut avoir des choses précieuses, mais le salut prend la première place. Son appartenance à Christ au cours de son existence sur la terre, vous le savez, c'est une existence et séjour très court. Tout de suite là, nous sommes en train d'écouter des messages. Nous avons perdu. Hein? C'est devenu un refrain. Nous avons perdu l'ongle, nous avons perdu le père, nous avons perdu. On perdra toujours. Parce que notre existence était séjour très court. C'est pourquoi Paul, dans son épître de la captivité, il adresse aux Philippiens, conscient de la valeur du salut, il éveille la conscience des enfants de Dieu à Philippe à leur disant, travaillez à votre salut avec crainte et quoi? Respect. Une autre version dit avec crainte et tremblement. Cela dit que si le salut doit être soigné par tous les moyens possibles, cela dit que sa perte, c'est notre perte. Je vois quelqu'un qui n'a qu'une seule maison, qu'une seule parcelle, et que cette parcelle est convoitée par les voisins. Ah, vous comprenez? Hein? Il est au parquet, au niveau, cette parcelle ne vous appartient plus. Vous devez enlever tout ce qui vous appartient pour aller à l'extérieur. Si vous êtes à l'extérieur, donc, il doit passer la nuit sur la route. Vous comprenez sa souffrance. Parce qu'il n'a que ça. Pour nous, les enfants de Dieu, notre salut, nous n'avons que le salut. Nous n'avons pas autre chose. Si notre salut peut se perdre, alors c'est nous tous. Nous sommes donc perdus. Nous n'avons plus rien. Pourquoi? C'est parce que le salut, c'est un acquis à acquérir. Nous sommes sauvés et nous serons tout aussi sauvés. Alléluia. Alors, dans ce premier jour de la série de nos enseignements, qui se poursuivra toute la semaine, nous voulons nous rappeler ces deux dimensions en rapport avec notre salut. Le salut acquis et le salut à acquérir. Nous sommes sauvés. Et nous serons tout aussi sauvés. Alors parlons d'abord de cette première dimension. Nous sommes sauvés. Le texte de Tite que nous venons de lire décrit effectivement ce salut à deux dimensions. La première dimension, la grâce de Dieu, source de salut. C'est au verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été comment? A été manifesté. La grâce de Dieu proclamée sur la croix de Golgotha par la mort de Jésus-Christ pour nous a été désormais à nous, à notre ère, un privilège exceptionnel. Nous avons ce privilège-là d'avoir vécu cette période de grâce où la possibilité d'être accueilli dans la présence de Dieu, elle est gratuite. On n'a pas à payer quoi que ce soit. La porte, elle est ouverte à nous. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 jusqu'à 12, nous pourrons lire ce texte-là, de 1 Pierre chapitre 1er verset 3 jusqu'à 12, il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour au résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Bien-aimés, nous héritons, le Seigneur nous fait grâce de bénéficier de quelque chose d'exceptionnel que les prophètes ont recherché. Ce salut a fait l'objet des recherches et investigations des prophètes qui nous ont précédés. Alors cette grâce a été manifestée à toute l'humanité par Jésus-Christ. Cependant, elle se manifeste progressivement à tout et chacun et chacune qui ouvre son cœur à l'évangile et qui ouvre son cœur à Jésus-Christ. Comme dit Apocalypse 3, 20, voici je me tiens à la porte et je fais quoi? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'ai soupéré avec lui et lui avec moi. Alors c'est à travers la dynamique de cette communion avec le Christ, une communion permanente, que nous lassons effectivement dans la deuxième dimension de notre salut. Quand j'ouvre mon cœur à Christ, je commence à souper avec lui. Toi, tu ouvres ton cœur à Christ, tu soupes avec lui. Et l'autre ouvre son cœur à Christ, il commence à souper avec lui. Effectivement, vous comprenez que nous sommes tous ensemble autour de la table, de la communion avec qui? Avec le Seigneur, tout ensemble autour de cette table de communion avec le Seigneur. Si nous sommes tout autour de cette table de communion avec le Seigneur, cette communion implique également la communion les uns avec les autres. Alléluia. Quand nous sommes en train d'adorer le Seigneur, parfois, nous avons acquis cette culture-là de fermer les yeux. Quand on entre dans la contemplation, on ferme les yeux. Mais aujourd'hui, je dois vous rappeler qu'il ne faut pas toujours fermer les yeux. Parfois, il faut ouvrir les yeux pour voir celui qui est à côté de toi. Parce que la gloire du Seigneur ne se manifeste pas seulement dans les sens, mais elle se manifeste aussi à travers celui que le Seigneur a mis à côté de vous. Alléluia. Eh bien, nous serons tout aussi sauvés. Notre marche avec le Seigneur, dans la communion avec lui, c'était combat. D'autant plus que nous sommes appelés à faire face à plusieurs défis qui sollicitent à tout moment la rupture de cette communion ou qui nous conduit parfois à sa rupture totale. Notre communion avec le Christ ou parfois notre communion les uns avec les autres. C'est un combat. Nous devons prendre conscience de cela, bien-aimés. C'est pourquoi ici, dans l'épître de Paul à Tite, que nous avons lu. Paul dit à Tite, son enfant légitime, qu'il a établi à Crète. En fait, nous pourrons comprendre que Tite était le disciple de Paul. Paul l'établit à Crète. Crète, c'était une île de la Méditerranée dans laquelle l'environnement spirituel était pollué. Et donc, c'était pas facile de mener une vie spirituelle normale dans cette île-là. Mais, ce n'est pas pour autant que Paul n'a pas trouvé utile d'établir son disciple dans ces milieux. Il lui recommande d'exhorter à la lumière de la grâce de Dieu toutes les couches de l'Église. Il a commencé par les vieillards. Il dit ceci. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être comment? Sobres. C'est pas pourquoi il a commencé par les vieillards. Honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les vieillards, oui, le système ne va pas changer. Ceux qui sont plus âgés sont les modèles des moins âgés. Il va vers les femmes âgées. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, ni adonné au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Vous voyez, de ça avec les générations et à être retenues, chastes, occupées, aux soins domestiques bonnes, soumises à leur mari. En fait que la parole de Dieu ne soit pas comment? Soit pas blasphémée. Le Seigneur nous établit, chacun à ce qui le concerne, dans son milieu de vie. Nous les pasteurs, il nous établit dans nos églises respectives. Toi, il t'a établi dans ta famille, tu es le père de famille, tu es la mère de la famille, tu es le grand frère. Il t'a établi dans ton milieu professionnel, il t'a établi au marché, il t'a établi dans tel ou tel autre bureau. Bien-aimé, le Seigneur, là où il nous établit, il veut que nous puissions manifester le salut qui nous a été manifesté. Alléluia. Si le salut par la grâce de Dieu nous a été manifesté, alors nous sommes aussi appelés à manifester ce salut dans le milieu où le Seigneur nous a établis. Notre salut ne doit pas seulement se manifester ici à l'église par notre façon de louer, d'adorer seulement, mais il doit beaucoup plus se manifester dans notre milieu de vie. Et Paul insiste sur Tite en disant, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Démontra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donne un enseignement pur et digne. Vous savez, un enseignement devient pur et digne lorsqu'il est vécu par celui qui l'enseigne. Nous, les pasteurs, nous sommes quelque part, entre guillemets, nous sommes un peu malheureux. Parce que tout ce que nous enseignons, nous devons être capables de le vivre. Et nous savons que vous êtes des inspecteurs spécialisés en matière d'inspection de la vie des pasteurs. Et tout ce que vous disiez contre nous, nous écoutons, nous recevons ça. Parce que nous sommes appelés à donner un enseignement pur et digne. Mais nous vous demandons, par la grâce de Dieu, chaque fois que vous faites votre inspection, de vous approcher vers nous et de nous parler courageusement de ce que vous avez trouvé que ça peut blasphémer l'évangile du Christ. Alléluia. Il ne faut pas parler dans les aisselles là-bas. Hein? Comme si vous avez peur de nous. Mais venez parler avec nous. Parce que le témoignage de l'évangile, c'est le témoignage pour nous tous. Enfants de Dieu. Quand vous disiez tout ce que vous voulez contre votre pasteur, alors c'est contre toute l'église. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il reste votre pasteur. Alors Paul continue à insister que l'exhortation doit être une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confit, n'ayant aucun mal à dire de nous. Quand les enfants de Dieu ne sont pas unis ensemble pour combattre le diable, ils se combattent eux-mêmes. Alors l'adversaire trouve la victoire. C'est ça, effectivement, la raison pour laquelle l'Église n'est pas en train de jouer son rôle, n'est pas en train d'être forte pour pouvoir combattre les antivaleurs. À un moment donné, après mes études, j'avais pris le courage aussi de passer quelques temps à Biriré. Parce que après les études, vous savez qu'on entre dans quelque chose, entre guillemets, qu'on appelle chômage. Et moi, je faisais tout travaux. J'étais prêt pour tout travaux. Je pouvais pousser charrette. Et quand j'étais fatigué, parfois, j'allais me reposer dans un coin. Et j'ai trouvé là-bas des papas qui pouvaient commencer leur discours le matin jusqu'au soir en train de détailler pasteur par pasteur. Tel pasteur, il est comment? Il a fait ceci, il a fait ceci. Tel pasteur, il est comme ça, il est. Tel pasteur. Et le dimanche, il se précipite, le premier, avec de grosses bibles pour occuper la place. Et il commence à louer. Quand nous nous combattons les uns, les autres, notre force, elle est fragilisée. Alléluia. Nous devons connaître qui est l'ennemi contre lequel nous combattons. Et donc, c'est pourquoi nous sommes appelés à nous exhorter mutuellement pour que nous puissions faire face à l'ennemi. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Eh bien, pourquoi cela? Et alors, Paul termine à titre en train de dire, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés, cette grâce qui a été manifestée envers nous, c'est un enseignant. C'est un enseignant. C'est une grâce pédagogue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alors, cette école-là de renoncement à l'impiété, c'est dans cette école que nous sommes appelés à nous inscrire. Nous sommes appelés, quelque part, à changer notre façon de voir cet exercice de renoncement à l'impiété. Nous avons beaucoup plus aiguisé le regard du contrôle de la vie de l'autre au détriment de notre. Si vous voulez, nous avons aiguisé cet exercice d'extrospection au détriment de l'introspection. Et quand l'extrospection a plus pris le dessus sur l'introspection, notre vie n'est plus conforme. parce que ma psychologie me dit que l'introspection donne beaucoup plus de vérité que l'extrospection. Oui. Les préjugés nous caractérisent et ça nous décourage. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi parce qu'effectivement, tous ceux qui se disent les uns sur les autres n'encouragent pas aux gens de pouvoir avancer dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, si elle est pédagogue, si elle est un enseignant, cette grâce est d'abord un enseignant pour moi. Et cette grâce ne peut arriver à m'enseigner si réellement, un jour dans ma vie, j'ai ouvert mon cœur à cette grâce et je me suis engagé à marcher sur le chemin de la fidélité au Seigneur. Et cette grâce, effectivement, comme l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, c'est une grâce, si vous voulez, une grâce de grand prix. Lorsqu'il dit au chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de qui? C'est le don de Dieu. C'est pas vraiment l'exprimer, mais je vais dire quoi? Marcher avec le Seigneur, et même recevoir l'évangile, c'est une grâce. Il y a les gens de ces mêmes qui ont fait un peu de petites statistiques pour essayer de voir ceux qui vont à l'église et ceux qui ne vont pas à l'église. Nous qui sommes ici, parfois nous pensons que beaucoup de gens viennent écouter la parole de Dieu. Mais ceux qui restent à la maison, la proportion de ceux qui sont à la maison, qui ne vont ni dans aucune église, quelle que soit la nature de l'église, c'est encore plus de 80%. Donc la petite poignée des gens qui viennent ici, vraiment, nous sommes encore très peu nombreux, nous qui avons même ce besoin de venir écouter la parole de Dieu. Je vais donc dire ici quoi que même trouver l'occasion d'écouter l'évangile, c'est une grâce. Parce qu'il y en a ceux-là qui n'ont pas encore eu la possibilité d'écouter l'évangile. Alléluia. Alors si nous avons eu la grâce de bénéficier de cet évangile, Paul continue à dire, nous ne devons pas nous glorifier. C'est le Seigneur qui... Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais terminer en disant ceci, bien-aimés. Notre salut, c'est un salut acquis, mais c'est aussi un salut à acquérir. Si la grâce de Dieu a été manifestée envers nous, nous sommes aussi appelés à les manifester. Nous sommes appelés à les manifester en attendant effectivement la manifestation de Dieu qui viendra pour prendre son Église. La question qui se posera à tout chacun maintenant, c'est de dire: as-tu déjà été touché par cette grâce de Dieu? L'autre question serait de dire: comment tu maintiens ta communion? Comment tu maintiens ta communion avec Christ? Est-ce que cette communion avec Christ te permet également de maintenir ta communion avec les autres? Parce que c'est à travers cette dynamique de communion que le Seigneur va nous aider à pouvoir progresser dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.